13h30 sur Inter, la marche de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Claire Servageant.
Vous désobéissez aujourd'hui.
Oui, depuis quand et comment, Claire, avons-nous la liberté de dire non ?
Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La désobéissance civile.
Moi, j'exercerai d'une manière ou d'une autre mon droit de retrait pour ne pas procéder à cela, parce que c'est le profond changement de la société judéo-chrétienne à laquelle j'appartiens. Je serai complètement hors la loi et je l'assumerai d'une façon ou d'une autre, mais je refuserai d'assumer cela.
Les maires, ainsi celui que nous venons d'entendre, qui veulent refuser de célébrer des mariages entre couples du même sexe, s'en vont généralement chercher leur justification dans une incise glissée au milieu d'un discours du président de la République prononcé devant leur association, c'était il y a seulement quelques mois. Quant aux branches les plus radicales du mouvement de la manifestation pour tous, elles se prévalent de la résistance. Elle est toute proche, disent-elles, c'est nous qui la prolongeons. Dans une autre couleur du spectre politique, José Bové, quand il démontait son McDo à Millau, affichait une référence à peine plus ancienne, l'américain Henry David Thoreau, qui vivait au milieu du 19e siècle. Certes, le mot de désobéissance civile proprement dit n'a qu'un siècle et demi d'âge. Il est apparu dans les œuvres complètes de Thoreau, justement. Mais en réalité, la liberté de dire non s'est exercée depuis la plus haute antiquité. Comme dirait Alexandre Vialat, le présent vient souvent de plus loin qu'il ne le croit, et ce n'est pas l'invité de la marche de l'histoire d'aujourd'hui, Yves Charles Zarca, bonjour.
Bonjour.
Qui va le démentir ? Comment vous présentez ? Vous êtes un homme d'intervention.
Je suis un homme d'intervention, je suis professeur de philosophie à la Sorbonne.
Et vous publiez depuis 2000 une revue qui s'appelle Cité.
Cité, qui est publiée au PUF, Cité avec un S.
Qui est là pour bouleverser un peu les champs d'interprétation politique. Voilà, et puis, c'est pour ceci que nous vous invitons aujourd'hui. Vous invitez, c'est toute une partie de votre travail, à retrouver dans l'histoire les fondements de la pensée politique. Oui. Rien ne vous énerve plus que d'entendre définir la résistance politique. L'action d'hommes et de femmes mus par des motivations éthiques qui refusent une loi ou une décision politique comme étant née de la dernière pluie.
Oui, mais ça c'est souvent ce qui est dit et qui me semble tout à fait faux. Alors, vous avez indiqué tout à l'heure l'origine de la notion de désobéissance civile. En latin, c'est jus resistendi et ça existe depuis très longtemps. Le Moyen-Âge a été en particulier un siècle où la notion de droit de résistance a été particulièrement mise en valeur.
Alors, on va commencer.
Et il a le contenu, on va voir, un certain nombre d'aspects de ce que l'on entend aujourd'hui par désobéissance civile.
On va commencer donc avec un siècle du Moyen-Âge, le 12e siècle. Nous sommes, si vous le voulez bien, Yves-Charles Zarca en Angleterre en 1170. Le roi d'Angleterre avait eu comme ami et chancelier Thomas Becket, lequel, devenu archevêque, défend farouchement la vision ecclésiastique d'un prince idéalement soumis aux perspectives de l'Église. Alors ça a donné lieu à toute une littérature. L'assassinat par les hommes de main du roi en 1170 de Becket, et notamment à la fameuse pièce de Jean Anouilh. Vous allez entendre dans le rôle de Becket, Jean Topard lui-même, et dans le rôle du roi que voici Robert Murzeau.
Tu sais que je suis le roi, que je dois agir comme un roi. Qu'espères-tu ? Ma faiblesse ?
Non.
Me vaincre par force ?
C'est vous qui êtes la force.
Me convaincre.
Non plus, je n'ai pas à vous convaincre. J'ai seulement à vous dire non.
Il faut pourtant être logique, Becket.
Non, cela n'est pas nécessaire, mon roi. Il faut seulement faire absurdement ce dont on a été chargé, jusqu'au bout.
Absurdement? Si nous parlions de choses précises, Becket, avec des mots à ma portée.
Je suis précis.
Alors c'est moi qui suis un imbécile, parle-moi comme un imbécile. C'est un ordre. Lèveras-tu l'excommunication de Guillaume d'Ensford et les autres que tu as prononcés contre des hommes à moi ?
Non, mon roi, car je n'ai que cette arme pour défendre cet enfant à moi confiée.
Accepteras-tu les 12 propositions qu'ont admises mes évêques en ton absence à Northampton, et notamment de renoncer à la protection abusive des clercs saxons qui se font tonsurer pour fuir la glèbe?
Non, mon roi, car mon rôle est de défendre mes brebis, et ils sont mes brebis. Je n'accepterai pas non plus que le choix des curés échappe à l'épiscopat, ni qu'aucun clerc soit justiciable d'une autre juridiction que d'église. Ce sont là mes devoirs de pasteur qu'il ne m'appartient pas de résigner. Mais j'accepterai les 9 autres articles par esprit de paix et parce que je sais qu'il faut que vous restiez le roi. Fort l'honneur de Dieu.
Après l'assassinat de Becket, le pape le canonise. Dès 1173, la cathédrale devient un lieu de pèlerinage. Et le secrétaire de Thomas Becket, qui vous est assez cher, Yves-Charles Arca, qui s'appelle Jean de Salisbury, écrit une biographie de Becket.
Oui, et il écrit aussi un traité très important qui s'appelle le Politicraticus, où la question du droit de résistance aux tyrans joue un rôle important et connaîtra des développements historiques plus tard. Je voudrais simplement insister sur 2 points. Le droit de résistance au Moyen-Âge se joue... implique deux points de vue. Premièrement, c'est un point de vue théologico-politique, hein, pas seulement politique, mais théologico-politique. Vous avez signalé tout à l'heure cette dimension du roi comme l'image de Dieu sur terre, et donc le roi est conçu comme devant se conduire à l'image de Dieu. S'il enfreint cette norme, et s'il se conduit injustement ou s'il s'agit d'un usurpateur, à ce moment-là, il devient l'image du diable. Et l'ensemble de la problématique de la résistance, du droit de résistance au tyran, éventuellement de le démettre et de le tuer, se joue à ces deux niveaux, politique et théologique. Donc ça, c'est un point très important, parce que je ne veux pas anticiper sur ce qu'on dira tout à l'heure, mais simplement une indication, ce qui va caractériser l'époque moderne, ça va être précisément retenir la dimension uniquement politique du droit de résistance. Deuxième aspect très important de cette problématique de la résistance au tyran, c'est qu'elle ne concerne que l'action politique du tyran. Bon, il n'y a pas d'objection de conscience ou de choses de ce genre. C'est-à-dire qu'il faut que la résistance soit fondée, qu'elle soit véritablement fondée au point de vue théologique. Il faut que le souverain que l'on dénonce, dont on dit qu'il est devenu un tyran, puisse être jugé à partir de normes qui sont celles que l'Église va définir. Donc il y a aussi dans cette problématique-là une subordination du politique au religieux. Et elle est fondamentale chez Jean de Salisbury.
Alors, le roi refuse par ignorance ou par malfaisance la tradition religieuse, on peut le démettre ou le tuer. Je crois que c'est Jean de Salisbury qui aimait cette citation, qui l'a beaucoup colportée. Nous sommes des nains assis sur les épaules des géants. Il faut rester dans la tradition du juste gouvernement. Alors, vous parliez de l'époque moderne. On va maintenant passer... Deuxième temps, on est toujours dans des régimes non démocratiques, mais l'État commence à se constituer dans la douleur. Nous sommes maintenant au XVIe siècle. Oui, il se constitue dans la douleur, parce que le XVIe siècle, c'est la révélation que l'unité religieuse peut être brisée. Les guerres de religion ravagent la France partout. Misère, feu et fer... réprouvé, pendu et martyr. Je cite à ma façon maladroite les tragiques d'Agrippa d'Aubigné. On va l'entendre d'ailleurs à un moment décisif. On est en 1587-1588. Henri de Navarre est devenu l'héritier du trône de par la loi salique, mais le parti catholique et le pape n'acceptent pas cette hypothèse. Henri III n'est plus qu'un roi de très peu. Qui peut lui succéder? Nous sommes dans le conseil des chefs protestants autour d'Henri de Navarre. Et voilà Agrippa d'Aubigné qui ne peut pas parler sans s'échauffer assez vite.
Le serment que j'ai à Dieu, à sa cause, me commande de parler et risque de me faire dire mon sentiment aux dépens de la bienséance. Dans le débat qui nous occupe, messieurs, de quoi est-il question? De savoir... si nous devons nous mettre sans nom et sans autorité au service de Henri III. De quoi vous a-t-on parlé? De la sauvegarde de nos troupes? Du danger que comporte une telle décision? De la sûreté où nous pouvons être de la parole du roi, pas le moins du monde? De quoi vous a-t-on parlé? De la patience, de la vertu, de la justice de notre cause et des bénédictions du ciel. Oh. Si nous en sommes là, autant fouler aux pieds les cendres de nos martyrs, le sang de nos hommes. Autant planter des potences sur les tombeaux de nos princes et vouer à l'ignominie ceux qui ont voué leur existence à Dieu.
Je n'ai jamais voulu dire une
vous chose avez dit, Turenne, si vous vous armez, le roi vous craindra. Je l'espère bien. S'il vous craint, il vous haïra. Ah, plût au ciel que ce fut la première fois qu'il nous haïsse.
Alors, au conseil d'Henri de Navarre, Agrippa d'Aubigné, tempête, bagarre, et il y a là, opinant du chef, un personnage très important pour vous, monsieur Zarqa, Duplessis Mornay, qui est un peu la conscience du parti protestant et qui a beaucoup réfléchi sur ce qui est possible en matière de désobéissance.
Oui. Alors, oui, Duplessis Mornay, il y en a eu d'autres. Comme Théodore de Bèze, Haussmann, qui ont beaucoup réfléchi sur la question de la désobéissance, effectivement, de la résistance, encore une fois, ici, au tyran, dans un contexte qui est celui que vous avez indiqué tout à l'heure, à savoir que désormais, on est dans les guerres de religion, et en temps donc de persécution collective. Et donc, la question ici, comment peut-on résister à un pouvoir qui tyrannise une partie de sa population pour des raisons religieuses. Alors, il y a un texte très important dans ce cadre qui s'appelle Vindicae contra Tyrannos, revendication contre le tyran, et qui est signé de Junius Brutus, mais dont on ne connaît pas absolument certainement l'auteur, peut-être Duplessis Mornay, peut-être Innocent Gentillet, etc. Mais bon, c'est un texte très important, en tout cas pour la question de la résistance. De la résistance, encore une fois, ici, au tyran, dans le contexte de guerre religieuse, et avec une idée cependant très importante sur la question de la souveraineté du peuple. C'est l'idée que le roi, il tient à sa légitimité du peuple, et sur l'obéissance qu'on lui doit est une obéissance sous condition. Donc s'il devient injuste, tyrannique, persécuteur, la question de la désobéissance se pose, la question de la résistance se pose. Et c'est-à-dire qu'il devient tyran. Et la tyrannie est pensée de deux manières, comme tyrannie de titre, ce qu'on pourrait appeler tyrannie de titre, c'est-à-dire l'usurpateur, ou bien tyrannie d'injustice, tyrannie d'exercice. Et donc, là, il y a premièrement cette théorie de la souveraineté du peuple qui garde la souveraineté, le peuple. Et deuxièmement, l'idée que le tyran, maintenant, c'est moins le diable que l'ennemi public. Que l'ennemi public. Et donc, le cadre de la question de la résistance change. Et elle reste toujours théologico-politique, bien sûr, mais elle prend un caractère, elle se sécularise progressivement.
Alors, dernière étape, si vous voulez bien, de ces temps modernes, dans l'Angleterre protestante du XVIIe siècle, quand le roi Charles Ier va être renversé, décapité, qu'il y aura toutes sortes d'agitations dans les milieux puritains, querelleurs, niveleurs, et que toutes les sectes bousculantes de l'Angleterre, la réflexion progresse beaucoup et se sécularise encore davantage.
Absolument. Alors là, on le cite peu dans ce cadre, mais on le connaît surtout comme un très grand poète, Paradis perdu, je veux parler de John Milton. C'est aussi un théoricien politique très important, qui a défendu la République après l'exécution de Charles Ier en 1649, première exécution d'un roi après un procès, plus d'un siècle avant Louis XVI. Et Milton va écrire un certain nombre de textes pour justifier l'exécution du tyran. Alors, il va y avoir une modification, c'est que la dimension théologique va quasi disparaître. Et les motivations de la résistance vont être désormais uniquement politiques. Avec deux idées principales. Premièrement, le roi qui devient tyran. Non, pas seulement ça. C'est pas seulement l'idée que le roi devient tyran, c'est une lutte contre la monarchie. Contre la monarchie, pour la République. Vous voyez comment on se déplace. On ne prend plus le roi comme idéal et le tyran comme anomalie exécrable, on prend désormais, l'alternative devient chez Milton, la monarchie ou la République. Et la monarchie, elle comporte en elle-même pour Milton des dérives qui sont tyranniques, le roi n'a pour objet que son propre intérêt, etc. Il n'y a que dans la République que la souveraineté du peuple peut être exercée. Et l'insistance de Milton sur un point tout à fait pas important, c'est son insistance sur la manière dont la monarchie délie le lien social, elle décompose la société, et aussi, un thème repris aussi bien au Vindicat dont je parlais tout à l'heure qu'à un autre auteur de la Renaissance très important, Buchanan, pour ces questions, c'est l'idée que désormais, ce n'est pas le tyran, c'est le roi qui est devenu l'ennemi public.
Ainsi, en arrivons-nous peu à peu à l'âge démocratique. On va voir comment se comporte en République la possibilité de ce qu'on appellera la désobéissance civile. Quand Boris Vian écrit Le Déserteur, c'est sous la forme d'une lettre d'un citoyen adressée au président de la République.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir.
Aujourd'hui, la désobéissance civile avec Yves-Charles Zarka, philosophe, l'animateur de la revue Cité. L'insoumission, la désertion, c'est une forme de désobéissance civile particulièrement risquée et qui se fait en conscience. D'ailleurs, beaucoup d'objecteurs de conscience vont refuser, dans cette époque oubliée, quand la conscription était obligatoire, d'aller faire leur service.
Oui, c'est l'objection de conscience. Regardez, c'est un point important, c'est-à-dire que à partir du moment où la référence théologique s'est dissoute et on ne cherche plus de référence théologique à la résistance, où va-t-on trouver le fondement de ce droit de résister ou de refuser ou de dire non ? Eh bien, la première idée, enfin l'idée, c'est que je la trouve dans ma conscience. C'est dans ma conscience, dans la conscience individuelle. Et donc, on a là, vous voyez, un déplacement très important et qui se maintient encore, hein, dont on pourra parler tout à l'heure si nous en avons le temps. C'est la conscience qui devient l'instance de jugement. Et je me pose moi-même comme l'instance de jugement par rapport à un pouvoir et je n'ai plus de critères extérieurs.
Exemple, Yves-Charles Zarka, un personnage très oublié, mais qui avait été candidaté pour le prix Nobel de la paix. Il avait laissé son tour à Martin Luther King. C'est un Français. Il se qualifiait de morpion sublime. En conscience, en 1908, il a refusé de participer. Il était soldat à la répression d'une grève. En conscience, en 1917, il a refusé certains actes de guerre. Il est passé en conseil de guerre. En 1939, en conscience, il a lancé un tract pacifique. Au total, il a fait 12 ans de prison. Et à la fin de la guerre d'Algérie, il s'appelle Louis Lecoing. Il entame une nouvelle action.
Il y a combien de temps que vous vous battez pour ce projet, pour ce statut des objecteurs de conscience ?
Depuis 6 ans, exactement.
Et il y a quelques jours, vous avez dit que si vous n'aviez pas satisfaction tout de suite, à ce moment-là, vous recommenceriez une grève de la faim.
Si je n'avais pas eu l'assurance, cette semaine, que le gouvernement déposait le projet devant les chambres pour qu'elles puissent le discuter à cette session, j'étais décidé à faire la grève de la faim dès lundi matin.
Et là, votre décision ?
Ah, je la recule. Je fais confiance au gouvernement. Il a déposé le projet.
Monsieur Pompidou a confirmé hier que le gouvernement avait décidé de soumettre à l'Assemblée nationale, avant la fin de la présente session, un projet de loi portant statut des objecteurs de conscience. Édouard Guibert a recueilli plusieurs témoignages.
Dans le fond de moi-même, je me sens un petit peu objecteur de conscience. Mais alors j'entends seulement l'objecteur de conscience qui refuse de porter les armes et par voie de conséquence de tuer son prochain.
Je conçois très bien qu'on soit objecteur de conscience dans la mesure où on a un petit peu de sens chrétien, notamment un des 10 commandements qui dit « tu ne tueras point ».
France Inter et auparavant France Culture 1962, le général de Gaulle, Premier ministre Georges Pompidou à l'époque, tous deux acceptent de donner un statut aux objecteurs de conscience. Mais je croyais que la désobéissance civile, M. Zarqa, ne pouvait pas donner lieu à un statut.
Oui, ben vous avez raison. Ceci dit, le statut, c'était aussi un moyen de l'encadrer, de la définir très précisément, pour ne pas qu'elle déborde. Vous comprenez ? Ça, c'est un point très important. Donner un statut, c'est en même temps, celui-là en tout cas, c'est encadrer, limiter, déterminer très exactement ce qu'on entend par là et ce qui en est exclu.
Et puis on est dans le collectif. Ce sont des collectifs d'objecteurs de conscience qui obtiennent le statut. Mais les objecteurs de conscience, ils doivent rendre un certain nombre de services à l'État, à la nation.
C'est que ce que je vous dis, c'est-à-dire que c'est un statut très encadré. Parce qu'en vérité, vous avez raison, on ne voit pas comment on pourrait institutionnaliser la désobéissance civile. Comment un État pourrait, par exemple, accorder que l'on n'obéisse pas aux lois ? À ce moment-là, il se détruit lui-même. Donc là, c'était une façon politique d'encadrer, et puis dans des circonstances particulières, c'est-à-dire la question de la guerre. Aujourd'hui, l'objection de conscience, ce n'est plus la guerre. Par exemple, la question des maires...
On va y venir, n'anticipez pas.
Non, je n'anticipe pas.
Parce que je voulais vous faire dire aussi, Yves-Charles Zarqa, c'est que maintenant, l'objection de conscience est oubliée. Je regarde Encyclopédia Universalis, il n'y a plus d'article objecteur de conscience, il n'y a plus d'article Le Coin, on renvoie à, alors là vous allez bondir, on renvoie à Henri David Thoreau. Vous pouvez le prononcer à l'anglaise parce que
Thoreau, bon moi je le prononce Thoreau. Alors,
ah bon, c'est un américain néanmoins.
Oui, c'est un américain. Oui.
Vous pouvez objectivement dire qui il est pour ceux de nos auditeurs qui ne le connaissent pas.
C'est un auteur qui a écrit des ouvrages importants sur la nature, et qui a écrit aussi, donc, en 1849, un ouvrage sur la désobéissance civile. Et donc, on l'a oublié.
C'est un monsieur qui vit en célibataire. Quand il n'est pas dans la forêt, il est dans une petite ville du Massachusetts.
Voilà, il parle beaucoup de la nature, des campagnes, des montagnes et autres. Et d'ailleurs, ces ouvrages-là reviennent à la mode avec, l'orbite écologiste. On fait beaucoup référence à Thoreau.
Mais vous n'avez pas dit qu'il était anti-esclavagiste.
Absolument.
Qu'il lui est arrivé de ne pas vouloir payer d'impôts.
Absolument. Donc, Thoreau est connu pour la désobéissance civile à cause de ce petit ouvrage sur petit texte sur la désobéissance civile qu'on trouve très facilement. Et l'objet à l'époque, c'était premièrement l'opposition à l'esclavage et d'autre part l'opposition à la guerre du Mexique. Et donc c'est sur ces deux objets que Thoreau revendique la désobéissance, avec un motif, on ne parle plus du tyran là, on parle au début de son texte sur la désobéissance civile, Thoreau dit la chose suivante, le meilleur gouvernement, c'est celui qui gouverne le moins, et même peut-être celui qui gouverne pas du tout. Et donc il y a une critique radicale du politique en tant que tel.
Mais quand il ne paye pas ses impôts, il se passe des choses très graves pour lui. On a parlé des 12 ans de prison de Louis Lecoin.
Bah écoutez, il se passe des choses pour lui.
Il a fait un jour de prison.
Un jour de prison. Ah, ouais. Aux États-Unis, il n'avait pas le... Mais je veux dire, ce texte a pris beaucoup d'importance. Aujourd'hui, paradoxalement, on y fait référence dès qu'on parle de la désobéissance civile, sans doute à cause de l'expression même, et sans qu'on voit le lien qu'il peut y avoir entre cette désobéissance et le droit de résistance tel qu'il était pensé au Moyen-Âge et à l'époque moderne.
Alors vous dites que le livre est petit, mais il y a les 20 volumes d'œuvres complètes, il y a le journal, et puis alors ça imprime beaucoup dans les esprits. Je vous propose d'écouter un extrait d'un des nombreux films qui cite Thoreau. Il y aurait pu y avoir le cercle des poètes disparus. Ici, c'est un film de Sean Penn qui s'appelle Into the Wild, et le héros a pris la route et...
Alors comme ça, t'es un cuir.
Comment ça, un cuir?
Un cuir, ouais. C'est les mecs qui font la route sans véhicule, comme tu le fais. Nous, on est des caoutchoucs.
Parce que nous, on en a un de véhicule.
Alex pourrait avoir une bagnole, lui aussi, mais... il a décidé que son pognon, il fallait le brûler. Pourquoi t'as fait ça?
J'en voulais pas. J'ai pas besoin d'argent. Ça rend prudent.
Il y a bien des cas où faut être prudent, t'exagères. Se nourrir de plantes, c'est une jolie idée, mais tu vas pas aller loin.
L'essentiel, c'est pas d'aller loin, mais c'est le chemin pour y arriver. Je paraphraserai Thoreau. Plutôt que l'argent, l'amour, la loyauté, la gloire et la justice. Je veux la vérité.
Oui, mais c'est une recherche solitaire.
Oui, d'autant que le thème de la conscience est décisif dans le texte de Thoreau. Par rapport à quelle instance il critique les certaines formes de gouvernement ou certaines pratiques politiques? Par la conscience, il dit, nous avons une conscience. Pourquoi avons-nous une conscience si nous devions l'abandonner, comme s'en démettre, pour laisser le politique penser à notre place?
Oui, mais je dis, c'est une démarche solitaire. Mais Gandhi, quand il s'inspire de lui en Afrique du Sud en 1906, ou alors pour prendre un exemple plus contemporain et aussi glorieux, José Bové en France, quand il fauche les champs, c'est une démarche collective. Oui, vous diriez même, c'est un mot que vous aimez, cosmopolitique.
Ah, non, non, c'est tout à fait différent. Le politique, le collectif et le post-politique sont différents.
L'action internationale des paysans.
Oui, oui, non, mais ça, c'est sûr. Ils se réfèrent à la désobéissance civile. Ils ont donné une définition. Il y a eu un petit ouvrage également de José Bové, j'ai le texte, dans lequel ils définissent cela. Et la fonction, c'est de remettre en question un certain nombre de lois, de faire appel à l'opinion et éventuellement même de renverser le pouvoir. Voilà. Donc, par rapport à des motifs qui sont... Alors, le point intéressant, c'est que la justification, là, c'est plus simplement une justification en conscience. C'est une justification par rapport à des motivations qui relèvent de l'écologie, qui relèvent de la préservation de la nature. Donc, on a une référence là qui est intéressante, qui est nouvelle. Je ne veux pas dire que je justifie tout ce qui est fait, mais on a là l'ouverture d'une dimension que j'appelle personnellement, et que je voudrais donner un contenu, une dimension cosmopolitique, c'est-à-dire qui concerne l'humanité entière. C'est comme si, en vertu des principes qui doivent gouverner l'humanité entière, nous serions autorisés à désobéir à des pratiques politiques, à des gouvernements qui nous obligeraient à agir autrement.
Alors, dernière chose, peut-être là y a-t-il un point nouveau, après la bataille du mariage pour tous en France, on voit, je présente les choses de manière provocatrice, du côté de la manif pour tous, la recherche d'une action collective, l'écologie humaine, avec des principes éthiques. Et de l'autre, je présente toujours de manière provocatrice, chez les partisans du mariage pour tous, plutôt une démarche individuelle de gens qui réclament leurs droits et qui, s'ils en ont les moyens, vont peut-être aller chercher personnellement à l'étranger des moyens avec la PMA ou la GPA d'avoir les enfants que la loi leur interdit encore d'avoir en France.
Que l'opposition soit collective, il n'y a aucun problème à cela, parce que c'est pas une que je sache, pour la plupart, ce n'est pas une action contre les homosexuels, c'est une action contre le gouvernement. Donc il est bien clair que l'action elle est politique, et c'est pour ça qu'elle doit être nécessairement négative. Elle doit être collective, pardon. Et donc en revanche, évidemment, les actions des gens qui se marient, c'est des actions individuelles, pas des collectives. Et donc c'est un point majeur, c'est-à-dire que... Mais attendez. La question deviendra résistance que lorsque il y aura, par exemple, du côté des maires, refus de marier. C'est là que la question se posera. Avant, les manifestations, elles sont pas parfaitement légales. Elles sont pas...
Oui, enfin, tout de même, on sent un déplacement sur le spectre politique. Radio Courtoisie lance des appels à la désobéissance et sur le net circule le texte d'un Saint-Cyrien qui a arrêté sur les Champs-Élysées. Renvoie toutes ses décorations au président de la République après le traitement indigne dont il a été victime.
Bien.
Merci.
On verra ce que ça donnera.
À vous, Yves-Charles Zarka, je vous ai connu plus provocateur que le dernier propos que vous venez de tenir. En fin d'émission, je renvoie à la revue Cité, à tous vos travaux, puis à un livre où vous reprendrez cette question, Presse universitaire de France, à la rentrée. Philippe Duclos, Yann Bouillot, l'équipe technique de la Marche de l'Histoire, conduite sans désobéissance par Jacques Sigal. La préparation, Camille Poux, Jalaguier et Frédéric Martin.